can't bury me without that suit. Stash bag with a $20 hat. And you can put a $30 gold piece on my watch chain. And let the fellas know that I died standing up there.
C'est la deuxième heure de Sweet Home Chicago, numéro 972, ça fait un moment qu'on est ensemble avec Joe Cocker, avec Laurent Choubrac, avec Jean-Christophe Panucco pour évoquer la carrière de Joe Cocker. On est ensemble encore pour une vingtaine de minutes. Aux alentours de 14h30, je reçois au téléphone l'ami Fred Delforge qui a plein de bonnes nouvelles à nous annoncer. On en a besoin des bonnes nouvelles en ce moment. Et puis ensuite, en troisième heure, je n'oublie pas vos dédicaces. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est Sweet Home Chicago sur le 666 et que vous pouvez également retrouver sur l'internet avec plein de choses à gagner sur le site de l'émission blues.radio666.com. St. James Infirmary par Joe Cocker en live. Ça, il a une voix là-dessus qui est, c'est même plus que déchirant. C'est
Ah ouais, c'est une version vraiment poignante. Ouais, c'est une version vraiment poignante. Alors si tu dis ça, si tu fais ton musicologiste à 3 francs, tu te rends compte que l'orchestration est assez inspirée de la version de Louis Armstrong en réalité, mais avec l'orgamande, le solo de flûte et puis la voix de Joe qui transcende tout, c'est, ouais,
la flûte traversière,
c'est démentiel.
Ça,
ouais.
Ça se fait plus trop la flûte traversière maintenant.
Ben non, depuis Jethro Tull, on a lâché.
depuis R et Jethro Tull, non, ça se fait plus. Non. Et en plus, Jethro Tull, il jouait sur une jambe. Hein. C'était quand même compliqué. Voilà. Hein.
C'est quand même bon. Voilà.
Aqualung, si vous n'avez qu'un album à acheter, c'est Aqualung.
Joe Cocker. C'est pas indispensable non plus.
Non plus. Enfin, c'est, comment je dirais, d'un point de vue historique, c'est intéressant, si tu veux.
Oui.
Hein, non, voilà.
On est en 71 et on y reste.
Si tu veux, c'est comme au cinéma, il y a des films, tu peux aller les voir, si tu veux. Mais bon, c'est
tu
pas,
peux aussi.
Tu peux aussi t'en passer.
Voilà. Bon, ça c'est dit. Une fois que tu m'avais dit, Laurent, on aime ou on n'aime pas, ben moi je t'avais dit on n'aime pas. Chacun ses goûts. Joe Cocker, Jean-Christophe, Laurent, on en arrive à un album qui s'appelle Luxury You Can Afford.
Alors, Luxury You Can Afford, c'est un album de 78 qui est une excellente année, pour plein de raisons. Non, alors pendant cette période-là, parce que toutes les années 70, effectivement, ont eu une particularité. Alors, c'était clairement un creux dans la période de Joe. Parce qu'il n'a pas renoué vraiment avec le succès qu'il avait à la fin des années 60, parce qu'il était dans un état physique assez difficile et que ses prestations scéniques étaient extrêmement aléatoires. On en connaît tous des artistes qui ont des prestations scéniques aléatoires, on ne va pas donner de nom.
Je ne savais pas qu'il était aléatoire.
Mais voilà, certainement. Donc c'est une période où vraiment il touche un petit peu le fond. Simplement, il touche un peu le fond sur le plan personnel parce qu'il avait une vie très organisée, sur le plan de sa carrière scénique parce qu'il a eu quelques problèmes de justice, notamment en Australie où il avait introduit de la drogue et il a fait un peu de prison, enfin, bon, il avait tendance à être un peu malade et à pas assurer toujours de très bons concerts, mais pendant toute cette période, il a fait d'excellents disques. Il faut dire que sur le plan discographique, il n'y a rien à dire. On a un superbe album qui s'appelle I Can't Stand a Little Rain, où il chante notamment Randy Newman de façon superbe, où il y a You Are So Beautiful, qui est un grand succès.
Ah oui, voilà.
Il y a Jamaica Say You Will, où il reprend du Jackson Brown également, et qui est un très beau disque plein de blues et de gospel. Il y a Stingray, où il fait du reggae pour la première fois et où on a très belles ballades et notamment un super blues de Bob Dylan qui s'appelle Catfish, qui était un inédit à l'époque de Bob Dylan. Et on en arrive à cette période 78 où il y a cet album de luxe, Luxury You Can Afford, où il y a des titres super, des reprises géniales, des participations de gens comme Alain Toussaint qui nous a quitté cette semaine.
Oui.
Avec des reprises de Bob Dylan. Avec des reprises de Bob Dylan et puis notamment la belle reprise de la belle chanson de Procol Harum, Watershed of Pale. Et moi j'ai choisi comme extrait un standard de rhythm and blues qui s'appelle I Know de Barbara George, que Joe transcende. Et ce titre a une petite particularité, parce qu'il comporte un solo d'harmonica effectué par Joe Cocker lui-même. Bon, il aurait mieux fait de s'abstenir, mais c'est pas grave, c'est très très bien.
Enfin, ça fait partie du morceau. I know you can't, you don't want me no more. Yeah. Voilà, extrait de l'album Luxury You Can Afford. Et de toute façon, je pense que oui, on peut facilement s'offrir, pas forcément tous, mais au moins une bonne partie de la discographie. Les albums de Joe Cocker sont tous recommandables. On n'en est pas encore là parce que on est qu'en 1978. Ouais. On n'a pas fini la chronologie, bien sûr. Il faut aller jusqu'en 2014 pour ça. Mais s'il y avait sur cette première période, on va dire jusqu'en 1980, ouais. Jean-Christophe et Laurent, je vous pose la même question à tous les deux, un album à retenir, la première, on va dire, la première quinzaine d'années d'activité discographique de Joe Cocker.
Mad Dogs, oui.
Ouais. Je crois que l'album le double album live Mad Dogs Englishmen, ça peut plaire, ça doit plaire à tous ceux qui aiment le rock et le blues. Ouais. Enfin,
La seule chose, c'est que, en effet, les gens qui aiment le Cocker d'après, hein, celui des années 2000,
très produit,
très, très sucré, produit, ouais. Très.
On va s'y retrouver, non, c'est clair.
Le côté Catherine Deneuve de Joe Cocker, par exemple.
Voilà, mais Parce que ce que j'aime, moi, dans cet album, ça me fait penser au... Mais c'est l'époque, c'est complètement normal. C'est-à-dire que quand t'écoutes, c'est hyper en place. Et en même temps, il y a un côté un peu bordélique. Ouais, comme chez les Stones, tu sais. C'est-à-dire que c'est bordélique, mais va-t'en essayer de jouer du bordel comme ça. C'est pas donné à tout le monde.
Ça brinque-balle un petit peu au début, à la fin. Et puis quand ça part, c'est...
Et voilà. Et tu sens... Il y a une espèce de... Il y a une vie... moi je retrouve moins sur les, même si j'aime beaucoup les albums très produits, hein, y a des choses que j'aime énormément mais que tu retrouves moins sur le côté un peu FM
de, oui, y a des de productions un peu plus aseptisées sur ce qu'il a fait on va dire ces 20 dernières années.
Il y a deux carrières chez Joe, hein, dans la deuxième partie des albums très produits il y a toujours des belles choses, il y a toujours cette voix fantastique, il y a toujours tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette vie que tu as sur ces albums.
Est-ce que plaire au grand public est un esprit?
Peut-être. Alors, moi, je pense que c'est un argument un peu facile. L'argument un peu facile de dire, bon, il a eu des succès massifs, alors on en reparlera un petit peu plus tard peut-être, mais il a eu des succès massifs avec You Can Leave Your Hat On, avec toutes ces choses-là. Et du coup, ça donne lieu à avec Unchained My Heart, ça donne lieu à des albums aseptisés. Ça, c'est ce que les gens aiment se dire pour se convaincre de l'intégrité de leur artiste. Il y a une autre vérité.
Night Calls, il n'est pas si aseptisé que ça,
non,
sur les coups de gueule.
Night Calls, non, mais Organic non plus, hein, qui est produit par Donoise, non, c'est pas le cas, mais sur les albums qui ont donné lieu à des succès populaires massifs, bon, voilà. Mais il y a un autre truc, c'est que Joe Cocker, et ça ses producteurs et ses musiciens le disaient, adoraient ça. Les choses aseptisées, très produites, très en place, très propres. Ses goûts ont évolué et ses goûts ont évolué vers ça aussi. Voilà.
Oui, non, et puis ça reste, même sur ces morceaux-là, on peut moins aimer. Moi, ce qui est mon cas, il n'empêche que ça reste un chanteur. J'écoutais dernièrement, c'était sur Evelyn's All Faith, sa version que je ne dise pas de bêtises, non, c'est pas là-dessus.
Version de quoi ?
Non, la version de Every Kind of People, ça doit être sur.
Oui, c'est sur Information, Earth and Soul.
Voilà. And Soul. Donc on peut penser ce qu'on veut de
c'est la reprise de Robert Palmer, ça.
Voilà, la reprise de Robert Palmer. On peut penser ce qu'on veut de la pub à Inokan, mais.
On peut voir de la DSP aussi.
C'est un morceau que j'adore. C'est vraiment un morceau que j'adore. Parce que je trouve que la mélodie est belle, parce que je trouve que le texte est vachement intéressant, puis parce que Robert Palmer était un très grand chanteur, et qu'en plus, juste au passage, il a fait ses premiers albums même avec un groupe qui s'appelle Little Feat, qui jouait derrière.
Qui est l'un des groupes que tu vénères le plus au
monde. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est, à mon avis, un des deux ou trois plus grands groupes de rock américains.
Tu nous avais fait un spécial Little Feat.
Oui, tout à fait. Et donc, sur cette version-là, il reprend des choses, et je trouve que là, pour le coup... J'aime moins la partie solo qui balance dessus, je trouvais pas ça indispensable, mais il n'empêche que je trouve que l'arrangement est assez FM, mais je conseille, on l'a pas programmé là aujourd'hui, mais je conseille vraiment aux gens d'écouter cette version, elle est splendide avec de l'acoustique, et puis bon, il a une voix, ça envoie quoi, voilà. Donc c'est Joe Cocker, c'est ça qui est bien aussi, c'est sa façon de transcender les titres des autres. Quoi.
Tout à fait. Absolument.
On va écouter un truc bien connu, je pense même pratiquement tout le monde. C'est quelque chose qui fait partie maintenant du paysage radiophonique. Ça revient régulièrement, même dans les soirées peu. Ouais. C'est Unchained My Heart.
Ouais, ça revient. Moi, je sais que c'est un titre que je joue souvent sur scène, dans cette version-là. En plus, Alors, Unchained My Heart, c'est un album.
Pas que dans les soirées peu.
Ouais, ouais. Non, mais c'est parfois aussi simple. C'est un album de 88. Alors, il faut savoir que Joe Cocker ramait quand même un petit peu sur le plan du succès populaire, et progressivement, au début des années 80, il va le retrouver. Il va le retrouver grâce à une chanson des Crusaders, I'm So Glad I'm Standing Here Today, que je n'ai pas d'ailleurs, parce que c'est un single, qu'il a interprété lors d'awards musicaux quelconques, qu'ils l'ont fait découvrir. Il a chanté la BO de Officer and Gentleman, il a chanté You Can Leave Your Hat On, qui était la BO de 9 semaines et demie.
Avec Mickey Rourke, avant qu'il ressemble à.
La grande chanson de Randy Newman.
Qui ressemble plus à rien maintenant.
La grande chanson de Randy Newman. Et donc, renouant avec le succès populaire, il a produit toute une série d'albums. Alors, il y a Civilized Man, il y a Cocker, il y a eu Sheffield Steel qui était encore pas très produit, qui était un excellent album. Et il y a eu cet album Unchained My Heart, One Night to Sin, et on est entré dans l'ère du Cocker moderne, c'est-à-dire toujours quelques morceaux super, des très bonnes reprises, quelques chansons un peu plus modernes, des arrangements très léchés. Bon, la production est impeccable et très propre, avec les meilleurs musiciens de studio américains. C'est excellent sur le plan technique. Il y a forcément un peu moins d'âme dans ces disques-là, on peut moins aimer, même si certaines personnes l'ont découvert avec ça. Donc bon, finalement, alors sur cet album Unchained My Heart, il y a le morceau d'ouverture, et là on voit l'interprète fantastique, parce que pour quiconque connaît la version de Ray Charles, on voit qu'il l'a non seulement réinterprété mais réarrangé, il a donné vraiment une vie nouvelle à cette chanson, quoi.
Unchained my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. About me, you got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know that I'm well. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, oh please.
On a entendu ça tellement de fois à la radio au moment où c'est sorti que, et en plus très très chanté, genre on n'avait même pas la partie lente à la fin,
tout à fait.
Que voilà, il fallait laisser ça quand même jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte d'infusion. Un bon compromis, j'allais dire, entre quelque chose qui reste assez tribal, musicalement parlant. Et un grand succès international.
Absolument. Bah, c'est un peu l'histoire après du Cocker des, alors malgré tout quand même des 30 dernières années, enfin des années 80 jusqu'aux années 2014.
Putain, déjà.
C'est, alors avec ces chansons-là, il y a eu un gros succès mondial, donc clairement ça l'a repositionné parmi les stars mondiales. Simplement, ce succès va pas vraiment durer partout dans le monde, et ça c'est quelque chose que nous Européens on a un peu de mal à entendre, c'est-à-dire que Joe Cocker était à partir des années 90 une superstar en Europe, c'est-à-dire principalement en Allemagne, où c'est peut-être en Allemagne où il a vendu plus de disques, où il a fait les plus gros concerts dans les stades et tout. Il s'est bossé bien aussi en France, en Espagne, etc. Mais un peu moins en Angleterre et carrément moins aux États-Unis. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai plein de disques sous mes yeux. Il y a certains de ces disques qui ne sont jamais sortis aux États-Unis. À tel point que quand il est revenu en 94 pour les 25 ans de Woodstock, ça a été un peu vécu comme voilà, le retour du survivant, qu'est-ce qu'il a fait, enfin bon. Et Cocker a été une superstar sur les dernières années, mais une superstar européenne essentiellement. Alors pendant cette période-là, il a eu un peu le discographiquement, il a sorti beaucoup de disques. Et avec un petit peu ce qui se passe pour des artistes qui sortent beaucoup de disques, comme par exemple Willie Nelson.
C'est avec des redites.
Sur 5 disques, il y en a, tu vas en avoir 2 fabuleux et puis d'autres qui sont très radiomicaux et qui passent assez moyennement, je dois dire, avec toujours cette voix formidable, mais peut-être pas des chansons à la hauteur ou peut-être pas une production vraiment à la hauteur. Il n'empêche que dire qu'il n'a rien produit de significatif depuis les années 90, comme j'ai pu le lire au moment de sa mort dans certaines chroniques, c'est globalement faux. Hein. Ces gens-là n'ont pas écouté les disques, comme c'est très souvent le cas. Donc, on a des albums superbes, comme Night Calls, qui est un album superbe, Have a Little Face, qui est un album superbe.
On a un
joyau absolu que je recommande à tous ceux qui aiment le blues,
organique,
le rock, et qui aiment l'acoustique organique produit par Don Was, où il revisite ses plus grands, certains de ses plus grands succès, You Can Leave Your Return, et puis où il fait des reprises, par exemple You and I de Stevie Wonder, tout seul à la guitare acoustique et à la voix, Can't Find My Way Home, Darling Be Home Soon, Many Rivers to Cross, voix piano, enfin c'est splendide.
Très belle version de Many Rivers to Cross.
Très belle version qui était déjà sur Sheffield Steel. Et puis on a des albums qui sont comme Heart and Soul, reprise de Standard Soul, très produit mais très très bien. Des albums un peu moins recommandables, enfin c'est mon avis, mais No Ordinary World of Respect Yourself, on trouve pas vraiment sceptique quand on aime le blues ou le rhythm and blues.
Il faut quand même dire, Jean-Christophe, que Joe Cocker, c'est la première et plus grosse star de Air Guitar.
Oui, exactement, oui, parce qu'il avait ce jeu de scène si caractéristique. Alors, sur les derniers albums, on a un sursaut quand même en Hard Knocks qui est pas trop mal, Fire It Up qui est très bien, mais il y a une perle dans le répertoire récent de Joe Cocker, c'est un album de 2008 qui s'appelle Hymn for My Soul, qui est passé un peu inaperçu et sur lequel on retrouve des belles versions de Beware of Darkness de George Harrison, de Long As I Can See the Light de Fogerty, de Ring Them Bells de Bob Dylan, avec une instrumentation acoustique et un morceau original qui s'appelle Hymn for My Soul. Si tu l'as sous la main, Marco,
oui.
ça me ferait plaisir. Et on renoue vraiment là avec l'esprit Mad Dogs Englishmen, comme quoi il pouvait le faire, il pouvait le refaire.
Jean-Christophe, on va faire plaisir à d'autres, tu vas voir. I saw myself today, I smiled and looked away, saddened by my visible life, sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb a nine hills in 7 short days. Sing a hymn for my soul. Myself today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Hills in 7 short days. So sing a hymn for my soul.
saw myself today. I look good, yes I had to say. Polish till it won't shine no more. Flying dragons surround my door. If and when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb on 9 hills in 7 short days. Sing a hymn for my soul. Tell me about it.
For my soul, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, ouais. Jean-Christophe, Laurent et moi, pour évoquer Joe Cooker, sa carrière, sa mémoire maintenant.
Il y aurait tellement de choses à écouter, parce que là on s'est coupé un bras, clairement.
On ne sera jamais complet.
Plus une jambe.
Hein. Ouais, mais plus une jambe. Si jamais, Marc, est-ce qu'on peut abuser, prendre un dernier morceau, c'est possible.
On y va, on s'en fout.
Ça fait partie, voilà, le paradoxe de Joe Cooker, c'est ça, même sur des albums extrêmement produits, qui peuvent ne pas intéresser le fan de Music Roots, t'as toujours les morceaux qui vont te cueillir quand même. Là, t'as un album qui s'appelle Across from Midnight qui comprend des choses super, comme un morceau de Tony Joe White, mais aussi un duo avec Eros Ramazzotti. Bon, voilà, c'est pas
dans celui-là qu'il y a un duo avec Catherine.
Non, il y a jamais. Alors ça, je le dis à nos amis du Débloc-Notes que j'adore par ailleurs, qui au moment de la nécro ont dit qu'il avait fait un duo avec Catherine Deneuve. Catherine Deneuve apparaît dans le clip, mais ne chante pas.
N'oubliez jamais, c'est
exactement,
ça.
Exactement, n'oubliez jamais, qui est un grand succès. Ouais. C'est un de ses derniers grands succès d'ailleurs, qui est une belle chanson, hein, mais bon.
Oui, mais c'est un truc qui est sorti il y a déjà un petit moment.
97. Mais sur ce disque, Marco, si tu pouvais nous passer juste la dernière plage.
Oui, c'est un blues, c'est ça.
Ah, c'est ouais, on peut.
Je serais bien de passer du blues ensuite au Chicago. Ouais.
Peut-être avant ou après, parce que je sais pas trop au niveau du
temps. Il est 14h30.
Oui, donc on va pas. Je vais faire vite. C'est juste parler quand même de Joe Cooker sur scène.
Oui.
Puisque
moi j'ai eu la chance de le voir, toi aussi.
Deux fois.
Moi aussi. Voilà. Une fois en 94, je crois, c'était aux Zénith de Caen.
Moi en 94, 97.
Moi je pense que j'ai dû le voir en 79 ou 80. Enfin, c'est au moment du double live, là, le blanc, la Joe Cooker live.
D'accord.
Où au moment où il venait de sortir Unchained My Art, et il passait au Palais des Sports de Caen.
Unchained My Art, c'était en 88, c'est ça?
Ouais, donc c'est 80.
Plutôt les années 80.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit 79, ça fait
79, non mais attends, que je dise pas de bêtises.
89,
oui, c'est ça. Oui. 79, parce que je me faisais un film dans mon truc, oui. Dans les années 89, avant le début des années 90, il est passé au Palais des Sports de Caen.
Je me souviens plus.
Mais c'est au Zénith que tu l'as vu, toi?
Moi, je l'ai vu au Zénith.
C'est sûr, d'accord. Ah ouais. Ouais, d'accord. Et moi, le Zénith n'existait pas. Donc,
mais non, le Zénith a été inauguré en 93.
Je cherche le Palais des Sports, en fait. Je sais pas où c'est.
En fait, il est derrière le Parc Expo. Hein, quand tu viens, quand tu as le Zénith, tu sais que le parking du Zénith, il est derrière. Quoi, donc,
c'est quand même là qu'en 88, on a applaudi Ray Charles, quoi. Merde.
Ouais, moi, je l'ai pas vu, mais j'ai applaudi Tanya's Letter au même endroit. Enfin, j'en ai applaudi d'autres, d'ailleurs. Et donc, pour dire que ça valait quand même le déplacement. Enfin, moi, j'ai vu un bon concert. Il jouait, par contre, très 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 fort.
Ah oui, ça c'est
sûr. Ah là, il jouait très fort sur scène, parce que j'en ai vu des concerts forts, mais alors là j'avais un peu les oreilles abîmées quand même. Et ceci étant, quand il a attaqué With a Little Help from My Friends, c'était quand même un peu les poils. Hein, quand
ouais,
même.
À chaque fois que tu le vois sur scène, c'est le moment de Little Help from My Friends où il te chante Do you need anybody? Il te fait le waouh! Alors là, à chaque fois, t'as
comment tu fais, Jean-Christophe?
Waouh!
Ah ouais! Yes!
Je n'y essayerai pas.
Dans Woodstock, il est pas mal non plus. Hein.
Oh là là, et là, à ce moment-là, c'est même plus la chair de poule que t'as. C'est-à-dire que t'as un frisson qui te parcourt. Là. Et c'est vrai que t'avais ce truc de voir quand il arrivait sur scène, quand même, quand il se posait là, tu voyais toute l'épaisseur du personnage et tu comprends que il fait deux pas sur scène et tu comprends ce que ce mec a de supérieur à beaucoup d'artistes que tu vois.
Je crois me souvenir, mais je peux me tromper, qu'un certain Elliot Murphy avait fait la première partie, genre 20 possible. Minutes, avec Olivier Durand déjà à l'époque.
C'est possible.
Bah, ça devait plutôt être 97, alors je sais plus.
Mais bref. Ça tournait 97.
Ou peut-être Calvin Russell, après tout, parce que ça se mélange
un peu. Des gens comme ça, oui. Moi, je l'avais vu en Allemagne en 94.
D'accord.
Et c'était la tournée promotionnelle d'Have a Little Faith, ce qui était intéressant parce qu'il jouait quasiment tout l'album, donc beaucoup de nouveautés. Et je me suis retrouvé au milieu d'un public de jeunes Allemands déchaînés qui connaissaient par cœur toutes les chansons. Et j'avais devant moi un vieux mec qui avait un beau t-shirt blanc, enfin qui était jaune, qui était très boudiné. C'était un t-shirt de la tournée Mad Dogs Englishman.
Un t-shirt blanc, jaune, excellent. Dans la série, j'y étais.
J'étais, ouais.
Alors, Laurent, en live, les gros poils et puis quelqu'un d'absolument inoubliable, est-ce que tu connais un équivalent dans cette catégorie, j'allais dire, d'émotion, capteur d'émotion pour le public, parmi tes nombreux souvenirs de concert?
J'ai encore cité Springsteen, forcément.
Ah, j'allais te dire.
J'ai encore cité Springsteen parce que, bon, voilà, c'est celui que j'ai vu le plus sur scène. C'est-à-dire que ce qui est toujours impressionnant, moi, je trouve, dans les concerts, c'est quand t'as vraiment un chanteur. Ce qui était le cas de Springsteen la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire que j'ai pris une grosse claque parce que je savais que ça allait être cyniquement, ça allait taper et tout, mais c'est un vrai chanteur, Springsteen. Et donc, voilà. Et Cooker, c'est bon, c'est comme, forcément, c'est un chanteur. Et on n'a pas si souvent l'occasion que ça de voir sur scène des grands chanteurs.
Paul McCartney.
Moi, je ne l'ai jamais vu.
McCartney c'est un super chanteur techniquement, mais ce n'est pas ce qui te frappe le plus quand tu vas le voir. Ce qui te frappe, c'est le répertoire, c'est tout ça. C'est moi, j'ai vu Tom Jones. Je suis le président de l'association des amis de Tom Jones. J'ai vu Tom Jones l'année dernière, et je dois dire que voilà, une voix comme ça qui te traverse de partout, c'est impossible.
Et tu vois, pour avoir vu les Stones à plusieurs reprises, et j'adore Jagger, je trouve que c'est un très grand chanteur, mais là, je rejoins Jean-Christophe. Ce qui t'intéresse, c'est la prestation scénique, c'est l'ensemble du groupe. McCartney, c'est l'ensemble de la. Enfin, moi, je l'ai jamais vu, mais
c'est l'histoire, c'est le répertoire.
Là, tu as, quand tu vois un Springsteen, quand tu vois Tom Jones, j'ai pas vu, mais quand tu vois Joe Cocker, d'un seul coup, t'as un chanteur, mais vraiment un chanteur, avec un groupe derrière qui est au service voilà. Et bon, même si Springsteen, s'il y a le Street Band et que tout le monde a sa place, mais d'un seul coup, c'est impressionnant.
Que ce soit Springsteen ou Cocker, Springsteen vient avec une guitare acoustique, Cocker chante avec juste un piano, ce qui lui arrivait souvent quand il finissait les concerts. Bah voilà, c'est monumental, il n'a besoin de rien d'autre. Je suis pas sûr que, moi je suis un fan absolu des Stones, je suis pas sûr que si on prenait Jagger avec juste une guitare acoustique, ça serait aussi intéressant.
On aurait peut-être un
non,
peu,
par contre, tu prends Keith Richards et tu lui fais faire un album solo, et là tu tombes sur le cul.
Album génial d'ailleurs.
Voilà. Oui, mais par contre, ça n'est pas un grand chanteur, je confirme.
Non, voilà, c'est pour ça qu'il a besoin de Mick Jagger. Je voudrais revenir juste 3 secondes à ce qu'on disait au tout début par rapport au répertoire de Joe Cocker. Il est surtout connu, on va le rappeler, pour ses reprises.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait pas le comparer dans la salle à un certain Otis Clay, par exemple, qui est un garçon qui est un magnifique interprète, mais qui a écrit très peu de choses.
Je connais très très peu d'Otis Clay. Je l'ai vu une fois. Peut-être que Cocker avait ce côté un peu plus entre guillemets universel. Mais bon, Otis Clay, c'est un interprète absolument fantastique, quoi. Je veux dire, mais dans ce registre gospel où il y en a tant. Hein. Prends un autre groupe, alors un peu moins connu, les Holmes Brothers. Tu connais les Holmes Brothers?
Les Holmes Brothers.
Voilà, on avait 3 personnes là qui étaient des voix monumentales et qui pouvaient chanter au clair de la lune, et c'était magnifique. Et voilà. Par contre, bon, Joe Cocker a su capter une petite universalité, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui sépare les Beatles de tous les groupes anglais, même de groupes géniaux comme les Kings? Bah, c'est d'avoir su capter un petit côté du goût universel absolu, quoi. Voilà.
Et entre nous, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de citer Joe Cocker comme le 97e meilleur chanteur du monde pour Rolling Stone?
Je pense que pour moi, il est dans le top 5, hein, clairement.
Ouais.
Ça vaut le classement de Rolling Stone. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, qu'on me dise que Pet Sounds ou que Sgt Pepper sont les plus grands albums rock de tous les temps, je suis désolé, j'ai des doutes.
Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Sgt Pepper.
J'ai des doutes.
Mais ce classement-là, c'est comme chez les guitaristes, quoi. Les 100 meilleurs guitaristes. Il y a eu un classement en 2008, un autre en 2012, ou je sais plus quand.
Ouais. Outre que la notion de compétition a pas grand sens en musique.
Ça a déjà aucun sens, si tu veux.
Mettre Steve Vai devant
Knopfler, déjà, c'est une hérésie. Après, je connais des gens qui sont très branchés techniquement, qui me diront qu'en effet, techniquement, en effet, Steve Vai, c'est un monstre, mais on s'en fout. De toute façon, c'est toujours Hendrix qui gagne à la fin, donc. Et juste une, ça n'a rien à voir, mais je profite que je suis au micro s'il y a des gens qui
vas-y,
entendent ça, parce que j'en avais un coup de fil. Le concert de Eric Bibb ce soir est annulé.
Ah merde.
Donc, enfin là, ils appellent individuellement les gens, mais le concert est annulé.
Ça veut dire que la traverse est en train de se déballonner par rapport.
Je ne sais pas ça, je dis pas ça.
Non, mais attends. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y en aura plein d'autres, parce que dis donc, moi je vois le fil d'actu de Facebook en ce moment qui grouille de musiciens qui disent venez, nous on vient on est là, bordel de merde, il faut que la vie continue. Et à côté de ça, il y a des organisateurs qui
ça peut être une décision préfectorale. Je sais pas.
Espérons que ce soit ça en tout cas.
Je sais pas du tout, parce que c'est quand même un lieu de culture, c'est à Rouen, c'est une grosse salle. Au niveau sécurité, ils peuvent peut-être pas assurer.
Alors, si vous aviez l'intention d'aller à Clément ce soir pour applaudir Eric Bibb et Habib Kouaté, malheureusement, ça sera pas possible.
Voilà.
Merci
du
message.
Mais de rien, ça, je suis le premier peiné parce que je me faisais une joie d'aller écouter ça.
Et effectivement, qui venir, on se voit. Là, je regarde mon fil Facebook et effectivement, il y a plein de concerts partout en France qui sont annulés. Oui. Moi, je joue à la foire aux saveurs d'Argentan à 18h en présence de Miss Basse Normandie. J'espère que.
Attends, ce serait dommage.
Ça serait con.
Miss Basse Normandie. Elle est charmante.
J'ai connu dans le cadre de ma vie professionnelle une précédente Miss France, très sympathique.
Y a pire comme relation.
En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle parce que la Traverse avait programmé d'excellents concerts.
Et notamment Warren Haynes.
Alors attention, je tiens à dire à la Traverse que si mercredi le concert de Warren Haynes s'est annulé, je vais personnellement lui péter la gueule.
En plus, il est complet ce concert. Il y a trois places qui viennent de tomber sur le site internet de Sweet Home Chicago, dont quelques amis qui vont en profiter. J'espère que ça aura lieu.
Je vous conseille le dernier disque de Warren Haynes, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà.
Je dois l'avoir dans la valise là. On écoutera peut-être ça en troisième heure.
Voilà. Okay.
Si vous êtes sage. On termine avec un dernier titre de Joe Cooker. Je te laisse nous le présenter à nouveau, peut-être Jean-Christophe. Et puis encore merci à vous deux d'être passés.
Merci de l'accueil.
Essayez de revenir avant la fin de l'année, sinon ça fera plaisir.
On va faire le max.
Il y a deux émissions en novembre, deux émissions en décembre.
Ouais.
D'accord.
Dernier titre de Joe Cooker sur un album Across from Midnight de 97. C'est une reprise de Peter Green, Fleetwood Mac, Little Willie John. Enfin, c'est Need Your Love So Bad et c'est splendide.
Accroche-toi.
And when the night begins and I'm at an end, you know I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up? Bring it home to me. Write it on a piece of paper and read it back to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad, because I need your love so bad. I need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, we can make everything alright. Listen to my plea, bring it home to me, because I need
I need someone's arms to hold and squeeze me tight. And when the night begins, I'm at an end. Because I need your love so bad. I said I need your love so bad. Write me a letter, baby.
Là encore, hein, jusqu'à la
c'est
dernière
pas,
goutte.
C'est
hein.
pas du blues, bordel.
Avec un putain de guitariste qui ressemble beaucoup à Clapton au niveau du phrasé et puis du son de la strat, mais qu'on connaissait pas ni l'un ni l'autre.
Ouais, c'est Laurent Shubrack.
Yeah. Monsieur Tim Renwick, ouais, voilà. Guitariste de studio,
c'est
probablement.
C'est vrai que j'ai une strato, ouais.
Chris Tenton au piano, bien sûr. Need Your Love So Bad, un morceau de Little Willie John, rappelons-le.
Ouais, popularisé par Peter Green et Fleetwood Mac.
Aussi.
Il faudra qu'on fasse un spécial. Ouais. Fleetwood Mac, j'ai fait Fleetwood Mac. Je suis pour faire Fleetwood Mac, mais rapidement.
Par contre, on va peut-être faire Peter Green, du coup.
Peter Green avec ses disques solo des années 70, 80, 90, ouais.
Et il n'y a pas que Albatros, vous verrez.
Ah non, il n'y a pas qu'Albatros, ah, c'est The Green Man aussi.
Oui, et puis tout ce qu'il a fait après, quand il était un peu sorti du ruisseau, il a fait des très beaux
disques. Ouais.
Un grand inspirateur de Santana, par exemple.
Par exemple, de Fred Chapelier sur la tournée à venir.
Oui, Fred Chapelier, ce Peter Greenise, après c'était de rebucananiser.
Putain, c'est bien dit ça. Il s'est Gary Mourisé aussi.
Je suis sûr que t'as moins aimé.
C'est pas vrai, en plus quand c'est Fred qui joue, j'adore.
Moi, personnellement, j'aime pas Roy Buchanan, je le dis. J'ai jamais aimé Roy Buchanan. Quand c'est Fred qui joue, c'est plutôt sympa, mais j'aime pas Roy Buchanan. Par contre, Peter Green, pas de problème.
Quand est-ce qu'on se revoit, les garçons?
Écoute,
on se réentend à la radio.
Très vite.
Il y a une émission le 28 novembre, ensuite il y en a deux en décembre, et puis après, on attaque 2016.
On fera une petite visite.
On va essayer de faire une visite avant la fin de l'année.
Exact.
Moi, c'est un petit peu chose que j'ai un calendrier un peu.
Oui, il y a moitié des enregistrements de prévus.
Des enregistrements, j'ai des concerts.
Alors dis-moi, les enregistrements, c'est pas sous le nom de Laurent Shubrack, c'est pas sous le nom de Gravel Road, c'est sous le nom de Westbound?
Non plus, parce que ça non plus. Voilà, sous le nom d'un groupe qui s'appelle The Band Guys. Voilà. Donc en gros, après X remaniement de musiciens, en gros, c'est à nouveau Westbound plus un chanteur. Mais c'est pas du Westbound du tout. Voilà, c'est assez électrique.
Et ça s'appelle ?
Ça s'appelle The Band Guys, les gars de la grange.
T'as pas peur qu'il y ait un groupe comme les Blues Guys qui te fasse un procès ?
Non.
On les connaît, les mecs,
Je leur fais confiance pour parler suffisamment bien l'anglais et pas confondre Blues Guys et Band Guys.
Ça marche. Donc on en saura davantage après les fêtes, on va dire.
Voilà, quand ça sera fait.
Faut que ça se mixe, faut que ça se masterise et que ça se commercialise.
Voilà, enfin, l'idée c'est plutôt de faire des enregistrements pour des marchés, pour les concerts, quoi. C'est plutôt l'idée.
Et toi, Jean-Christophe, l'actu des Witch Doctors,
il y a un nouvel album en pleine préparation. Là. C'est-à-dire qu'on a fait une première sélection de morceaux, on commence à les répéter, on commence à les mettre en place. C'est un album qui, à mon avis, qui promet d'être sympa et d'être différent. Et on va travailler dessus sur la fin de l'année, la début de l'année prochaine.
Toujours à trois, pas de guests.
Toujours à trois, il y aura peut-être des guests. Je me suis paxé avec Laurent, donc maintenant je ne fais plus rien sans lui.
Ça marche.
Il est fort possible que Laurent vienne nous rendre une petite visite. Et puis voilà.
Alors puisqu'on est dans notre actualité, je précise qu'on a une commune quand même, puisqu'on a un groupe qui s'appelle Gravel Road.
Et oui.
Et que de mémoire,
on joue le 15 janvier.
On joue le 15 15 janvier au El Camino, voilà, avec l'ami Olivier.
Y aurait-il un nouveau festival mini blues, mini festival?
Oui, normalement absolument. Ça doit se faire. Voilà, voilà. Donc c'est marqué bien sur le coup, mais que marqué très très pris. Il m'en a pas reparlé, mais normalement c'est bon. Hein, ouais, il m'a booké la date. Donc,
15 janvier.
Voilà. Très bien.
Et d'ici là, moi je joue avec les Witch Doctors. Je suis ce soir, enfin je suis à partir de 18h à Argentan. Je suis la semaine prochaine, le 20 novembre, au Portobello avec les Witch.
Le même soir, vous pouvez faire la navette. C'est pas je veux faire la concurrence. Le même soir, vous pouvez venir au O'Donnell écouter Westbound, mais Westbound avec Philippe Brière. Donc c'est du blues.
Sachant que quand on va dépasser une certaine heure, ça va être un gros bordel parce qu'on va tous se mélanger.
C'est ça. Alors le Portobello et le O'Donnell, pour ceux qui habitent genre en Charente,
c'est de chaque côté du port de Caen.
Il faut quand même expliquer que c'est à Caen.
Il faut trouver le port de Caen. Si vous arrivez à Caen par l'autoroute, sur la gauche vous avez le O'Donnell. En face vous traversez l'eau, vous avez le Portobello.
Voilà. Mais vous pouvez traverser. Il y a une route. Vous n'êtes pas obligé de traverser à la nage.
Très bien, merci les garçons. En tout cas, Jean-Christophe Panico, Laurent Choubrac dans Sweet Home Chicago aujourd'hui, c'était un énorme plaisir. 1h30 avec Joe Cocker.
Plaisir partagé.
Et puis la prochaine fois, ce sera Peter Green ou quelqu'un d'autre.
Très bien.
Okay. Allez, on continue avec merci Roland. Merci les garçons. On continue avec Roland Chacounté. Et puis juste après, je passe un petit coup de fil à l'ami Fred Delforge, comme prévu, comme promis.
Like the John Young, so you know, Munchula, Mame, Mazika, like the John Young, so you know, Lensama, Koni, so you know, Mamma. Avunchakamanya Benedia Mulam Magafin Lago Goni Zukun Mamma Mamma Malembu Malembu Yoga Amma Mamma Manawu Mafin Napun Mamma Mamma Mere dia mulem bu mago fin la la Goni zo kun mama mama Mere mu yo mama mama Na wu ma fin na kun mama mama Goni zo kun mama Ya vu chaka manya Mama, unga ja kika manyaman. Ana lam taban na lutanum yu mama. Unga ja na chuka manyaman. Ana lam taban na lutanum yu mama. Unga ja kika manyaman. Ana lam taban na lutanum yu mama.
Monsieur Roland Chakunte avec l'album Gimme and Smiling Blue, c'est dans Sweet Home Chicago. Je suis au téléphone non pas avec Roland qui avait été interviewé il y a peu de temps à propos de cet album, ce superbe album, mais avec l'ami Fred Delforge. Salut Fred.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va.
Bah écoute, compte tenu des circonstances, oui, ça pourrait être pire. On essaye de tous faire en sorte que la musique guérisse l'âme.
Salut Fred, bis Fred, ça va ?
Jean-Christophe. Salut, tout va bien.
Salut.
Laurent également. Fred Delforge, mesdames et messieurs, vient d'obtenir un Keeping the Blues Alive par la Blues Foundation et ça lui sera remis fin janvier à Memphis, s'il vous plaît.
C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand même. Bravo.
Merci.
Alors, Fred.
Et franchement, Fred, il le donne à n'importe qui. Souviens-toi de l'écuyer quand même. Oh non, on adore Mike, c'est une blague avec lui. On adore Mike.
Alors, il y a eu également Jean-Guy Hermeau, il y en a d'autres voilà, qui ont eu cette distinction. Déjà, première question, Fred, ça t'a fait quoi quand tu as reçu un message de la Blues Foundation ?
Ah ben, très 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 surpris. Bon, moi j'ai la surprise depuis, je suis au courant depuis 3 semaines quand même, parce qu'on nous a demandé tout un tas de choses, mais ils ont bien entretenu le mystère derrière, et c'est vrai que quand c'est fait, j'allais me coucher, il était 23h50, quelque chose comme ça, et je vois un message de Barbara Newman, donc j'ai tout de suite eu un doute, j'ai tout de suite été regarder, et super surprise, donc et ben, après tu dors pas de la nuit... Et tu remis toute la nuit en me demandant pourquoi toi et pas les autres.
Mais les autres, c'était déjà avant et puis ce sera plus tard. Je veux dire, il faut regarder sous la semelle. Il y a également le Cahors Blues Festival qui a été nominé, enfin qui va être récompensé cette année, Fred.
Ouais, c'était une très bonne surprise parce qu'en fait, Robert Moriès était au courant du sien, moi j'étais au courant du mien et comme on n'a pas le droit d'en parler, on n'en parlait pas.
Oui.
Et Robert m'appelle un jour en me disant je vais aller à Memphis cette année. J'ai dit ben moi aussi et je me suis dit ah, il y a quelqu'un qui a été bavé pour le TBA, mais qui ? Et je savais pas du tout qui avait pu aller en parler. En fait, lui, il parlait du sien, alors que moi, je parlais du mien.
D'accord, c'est cool.
C'était très drôle, on parlait. Donc, lui, il savait pas que moi, j'en avais un. Moi, je savais pas que lui en avait un. Et on était... Enfin, c'était assez surprenant, quoi. C'était une belle chose. Un beau moment d'ignorance totale, quoi.
Mais ce sera surtout un bon moment, je pense, au moment de la réception, de la distinction. Alors, qu'est-ce que ça représente, en fait ? Ça fait un peu plus de 35 ans que la Blues Foundation existe, est basé sur Memphis aux États-Unis. C'est une association, une organisation internationale, bien entendu, avec de multiples correspondants un peu partout aux États-Unis et puis maintenant depuis quelques années dans le reste du monde, notamment avec France Blues pour nous, pour ce qui nous concerne. Qu'est-ce que ça représente d'avoir une distinction Keeping the Blues Alive?
D'une part une reconnaissance mondiale.
Est-ce que c'est comme une lifetime achievement?
C'est tout à fait ça. En fait, c'est comme ça qu'ils le présentent. Moi, la première fois que j'étais à Memphis et que j'ai vu quelqu'un le recevoir, c'était la même année Mike Lécuyer, Jacques Perrin et Nicolas Tournier de Soulbag,
ouais.
Et Keith Richards qui le recevait pour son livre aussi.
Ouais.
Donc voilà, c'est impressionnant, on se dit.
C'est vrai que voir Mike Lécuyer et Keith Richards sur le même plateau, ça devait être quelque chose quand même.
Oui, enfin Mike était là, mais Keith n'était pas venu parce que
dommage.
Je ne sais pour quelle raison.
Oui, il avait piscine.
J'imagine aussi, ouais. Mais bon, on avait eu la bonne surprise. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Ouais,
une récompense, c'est pas une fin en soi, c'est pas le
mais non, parce que
je pense qu'on doit continuer derrière.
C'est ça qu'on pourrait se demander, Fred. Lifetime achievement, ça veut dire maintenant, c'est bon, Zika Zik, tu vas lever la pédale, de toute façon, il y a une équipe derrière. Non, pas du tout, je te connais, tu es un staccanoviste des concerts, des chroniques, et puis de la musique en général. Ça va pas te mettre du tout les œillères, au contraire, tu vas t'envoler encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Fred.
Oui, on a déjà imaginé des nouveaux projets. Le hasard du calendrier fait que j'étais avec Robert Moriès mercredi soir à Paris quand on l'a annoncé officiellement. C'était absolument pas prévu, on avait prévu de se rencontrer pour passer la soirée ensemble. Et la Blues Foundation l'a annoncé mercredi soir, juste au moment où on était tous les deux.
D'accord.
Donc on a commencé à faire des projets, on avait des amis qui étaient avec nous, on a commencé à faire des projets ensemble, et je pense que vous aurez de belles surprises blues dès cette année à cœur, parce qu'on est des gens qui essayons de faire les choses rapidement.
Voilà, donc pour être très clair, le festival, Car Blues Festival, qui aura lieu, comme tous les ans, je pense, à la mi-juillet, oui. Il y aura des surprises.
Il y aura des surprises. On a déjà, bon, on a acheté, tu sais comment on fonctionne, on a acheté plein d'idées, on s'est dit qu'on allait faire plein de choses. On en fera sans doute que la moitié, parce que autrement, il faudra faire un festival qui dure 6 mois.
Oui, mais il faut regarder sous la semelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement.
Oui, mais on va faire des choses. On va faire des choses un petit peu spéciales et un petit peu exceptionnelles pour ça et pour d'autres choses. Alors le hasard du calendrier fait aussi que cette année j'avais décidé d'emmener une amie photographe à Memphis et dans le Mississippi. Donc excellente photographe Sylvie Bosque,
oui.
Qui est de l'Aveyron, donc qui est une personne que je vois une fois par an en temps normal. Et donc qui sera avec nous, donc on va partir dans le Mississippi, donc du coup elle va venir avec nous terminer sur Memphis, parce que c'est l'occasion aussi d'immortaliser le moment, et on a toute une équipe vidéo qui vient avec nous, on a des amis qui nous rejoignent, on a entre autres Michael O'Kierman qui va nous aiguiller sur notre recherche des sources du blues, donc on a connu Pierre comme guide, et on a tout un tas de gens qui vont se joindre à nous. On parle de Sharon McConnell Dickerson qui aura elle aussi qui vient cette année. On parle de Alan Bernard, représentant blues auprès de l'UNESCO, qui lui aussi en aura un cette année. Et puis on parle de tout un tas de gens qui vont nous donner un coup de main. Je pense que Brucey Glover va se joindre à nous. Je pense que David Evans va se joindre à nous. On aura plein de beaux mondes pour nous emmener à la recherche du blues et on va bien se régaler.
Ben, David Evans, il va être chez lui déjà à Memphis. Oui. Brucey Glover, rappelons-le, depuis 1971, le boss d'Alligator Records, l'un des plus importants labels de blues, on va dire, au monde, hein, n'ayons pas peur des mots. Oui. Voilà, tout plein de gens voilà, qui sont récompensés régulièrement chaque année, à l'occasion notamment d'un tremplin international dont on va parler dans quelques secondes. Fred, on laisse passer un petit jingle.